Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les coulisses du jeu. Je suis Antoine Mongeon. Et je suis ravi de vous retrouver encore une fois cette semaine. Et c'est en plus, on avait une petite absence la semaine dernière qui est comblée par Benjamin cette semaine qui revient. Salut Benjamin, ravi de te retrouver.
Je reviens en force, désolé pour la semaine dernière, mais là je suis là. Bonjour
non,
à
mais
tous.
T'es tout excusé. Je sais que voilà, c'est déjà super sympa que tu arrives à avoir cette régularité quasiment voilà, hebdomadaire de participer au podcast. Donc, c'est pas forcément évident de trouver un emploi du temps qui colle entre tout le monde et puis se libérer. C'est quand même, voilà, c'est quand même super chouette. Je te remercie. Et puis, du coup, tu vois, t'étais pas là. J'étais tellement tout seul que j'étais tellement triste que je l'ai fait tout seul finalement. Le podcast
ouais, je l'ai écouté,
un petit
effectivement.
Malheureux
Puis
et tout,
court en
voilà.
plus, hein.
Ouais, tout plus court. Donc, quand je suis tout seul, je me dis maintenant, je m'embête pas. Je fais un podcast court, je cours un peu l'actualité. Puis là, c'était aussi plutôt calme ces dernières semaines. Même cette semaine, je trouve que l'actualité n'est pas non plus ultra chargée. Je sais pas si les fêtes de fin d'année sont plus focalisées, centrées plus sur les sorties de jeux, plus que sur l'actualité. Mais peut-être qu'il y a des choses intéressantes qu'on pourrait couvrir. On
Je
va
dirais
voir.
qu'il y a moins de drama. Il y en a
Ouais.
eu tellement qu'il y a peut-être une pause de drama dans notre industrie.
C'est pas plus mal.
Mais nous verrons avec la petite nouveauté des news en cascade de fin de podcast qu'il y a quand même des choses qui bougent et des belles choses qui sont arrivées.
Oui, on a changé un petit peu la formule là, de justement un Benjamin a voulu impulser un petit changement sur la structuration du podcast. On présentera du coup des petites news en vrac à la fin, des news en cascade de Benjamin. Donc on verra ça en fin de podcast. Et sinon, pour démarrer le podcast et pas perdre les bonnes habitudes de Benjamin, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit mettre
5 étoiles sur
5
Apple
étoiles.
Podcast et sur l'ensemble des plateformes qui nous permettent de nous écouter.
Exactement. Donc, ouais, si vous nous écoutez sur Spotify, sur Google Podcast, sur n'importe quoi, ou qu'il y a un podcast dedans, il y a un cast dedans, eh ben, je suis sûr que vous pouvez me noter, vous pouvez mettre un commentaire. J'ai vu qu'il y a des nouvelles notes qui sont apparues. Alors, je suis super content. Merci pour votre soutien. Continuez, c'est génial. Nous, ça nous permet vraiment de remonter. Je vois sur les analytics, sur tout ce qui est tracking et tout, que les écoutes remontent, la visibilité du podcast remonte. Donc, c'est vraiment top. Je vous remercie. Et du coup, je ne t'ai même pas présenté, hein, Benjamin, tout le monde. Te connais maintenant, je te présente quand même, hein, qui est cofondateur et créateur de Lucid Factory, une société de création de jeux vidéo.
Exactement.
Il y a le jour où ça change, tu me diras si je
Ouais,
comprends.
normalement on est bon. Peut-être un jour j'aurai d'autres casquettes, mais pour l'instant c'est celle-là.
Ça marche. Écoute, je te propose qu'on démarre sur la première news de Roll7 qui
Yes.
explique comment gérer une entreprise en full remote.
C'est vrai que le full remote aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est dans l'air du temps, surtout dans notre domaine, parce qu'on va pouvoir aller chercher des talents qui ne se trouvent pas dans les mêmes pays, et bien sûr, ils ne vont pas venir au bureau tous les jours, donc ils ont la possibilité de travailler du coup en full remote. J'imagine que tu vas prendre point par point un peu qu'est-ce que fait Roll7 pour gérer le full
Ouais.
remote.
Après, on peut en parler un peu librement. Toi, je ne sais pas comment tu te positionnes
Bah,
par rapport
nous,
au full remote. Est-ce que tu as de
alors.
l'expérience? Est-ce que tu as vécu ça? Ou c'est quelque chose qui t'intéresse,
Alors,
toi?
j'ai vécu ça bah, parce qu'on travaillait pendant les vagues de Covid. Donc, on était chez nous en full remote par rapport à la boîte. Et au sein de Lucid Factory, on ne fait pas de full remote. En tout cas, pour
D'accord.
l'instant,
Ouais.
les gens peuvent être en télétravail quand ils en ont besoin. Et s'ils ne sont pas en télétravail, bah, du coup, ils sont en studio. Par contre, ce qu'on a mis en place, on a mis en place un gazer tone.
Alors, qu'est-ce
Je
que
sais pas
c'est?
ce
Est-ce
que
que
c'est
tu peux?
Gazertone.
Non, vas-y, explique un peu.
Un Gazertone, en fait, c'est une sorte de métaverse aussi, avec une ambiance très Super Nintendo. Voilà des assets graphiques
16 bits,
en
ouais,
2D,
pixel
16 bits
art, c'est
exactement.
ça? Ok.
Ouais, voilà. Et du coup, tu crées ton bureau virtuel. Donc, tu as toute la. Enfin, t'as les. Enfin, comment je pourrais dire ça? Tu peux vraiment faire ce que tu veux, comme tu veux. On a un rooftop qui donne une vue sur. Genre, ça pourrait être New York. On a un terrain où on peut faire du kart. On a un bureau ovale de réunion où on se croirait au 41e millénaire. Enfin, voilà. Tu peux vraiment faire ce que tu veux, comme tu veux, avec des liens avec ton Google Drive et tout. Et tu as dedans des espaces de bureaux virtuels. Donc, si tu as envie d'être en open space, soi-disant, bah, du coup, tu te mets dans des endroits prévus pour. Du moment qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans cet espace, ton micro s'active, ta caméra s'active. Alors, bien sûr, tu peux y désactiver si tu as envie. Donc, du coup, tu vois les gens, tu interagis avec les gens, tu as ton avatar pour bouger et aller de bureau en bureau. Donc, si tu as envie de t'isoler et d'être tout seul, ben, si quelqu'un veut te parler, il va devoir se déplacer pour aller vers toi. Et donc, du coup, ça marche assez bien.
D'accord. Ben, j'ai jamais, tu vois, j'ai jamais utilisé ce genre de système. J'ai vu passer des actus des fois de... Et tu dis que ça s'appelle comment? Gather Town, c'est ça?
Gathertown, ouais.
Ok.
C'est ce qui est utilisé aussi par la Game Jam, une Game Jam sur l'histoire qui est faite par des Lyonnais. Hein, j'ai bouffé le nom, je suis désolé, s'ils nous écoutent, ils vont me taper. mais du coup, pareil, la Game Jam se passe sur un serveur Gathertown.
D'accord, excellent, mais je savais pas. Je sais pas s'il y a beaucoup de studios, tu vois, qui utilisent ce genre de système, parce que j'imagine pour mettre ça en place, peut-être que ça doit aussi être assez fastidieux. Enfin, tu vois, il faut quand même peut-être se connaître un petit peu. Est-ce que c'est juste un compte à créer sur le site de Gathertown et
ça se fait en 2-2, ouais.
Ouais, ça se fait en 2-2, d'accord.
C'est la Game Jam des rendez-vous de l'histoire, voilà.
Ah, ok, cool. Ok.
Et oui, ça se fait en 2-2. C'est quand tu es que utilisateur et que tu as un lien d'invitation sur le serveur du Gazer, en 3 minutes, tu es dedans.
D'accord, bah écoute, il faudra que je teste ça. Et là, en fait, Roll7, c'est les créateurs de Holy Holy. Je sais pas si, voilà, pour ceux qui connaissent un peu le jeu, ils ont fait même Holy Holy 2, je crois. Et ils ont fait un petit article là, sur gameindustry.biz pour expliquer un peu comment faire tourner un studio en remote avec plein de gens en remote. Donc, je sais qu'il y a plusieurs studios qui fonctionnent comme ça. Par exemple, c'était lesquels c'est The Game Baker, je crois, qui sont aussi en full remote. Il y a plusieurs studios maintenant qui sont un peu connus pour travailler à distance et que ça marche plutôt bien. Et là, l'idée, c'était, dans leur article, c'est de donner des conseils justement sur les différents challenges, les différents... Comment ils ont mis des choses en place pour qu'il y ait quand même une certaine cohésion, fluidifier la communication au sein du studio, de l'entreprise, entre les gens, etc. Parce que c'est quand même un des challenges les plus durs. Moi, ça fait, 3-4 ans maintenant que je suis quasiment full remote. Au début, on avait commencé avec de l'hybride. Notamment à cause du Covid, on était un peu forcé et ça a enclenché beaucoup la partie remote et dire bon en fait finalement on peut travailler en remote facilement et c'est vrai que la difficulté principale dans le full remote pour moi c'est surtout la communication. La communication est très très dure entre les personnes des fois où la communication se passait en face à face avec des gens qui ont l'habitude juste de dire en se levant enfin en parlant à travers le bureau derrière son PC son moniteur de dire tu peux m'envoyer ça, c'était quand même facile. Là il faut prendre l'outil de communication, souvent c'est Slack ou et de dire écoute, est-ce que tu peux m'envoyer le lien? Donc la personne ne va pas forcément te répondre tout de suite, donc il faut être patient, il faut attendre, il faut qu'elle te l'envoie. Après tu dis mince, non c'est pas le bon lien, donc tu renvoies un message, donc là tu attends et des fois ça peut prendre du temps, donc c'est pas aussi fluide que du présentiel 100%, mais
ça c'est sûr. Après c'est vrai que de mon point de vue ça demande plus de maturité et d'organisation que être, comme tu viens de dire, tout le monde en studio. Par contre, si les gens sont sérieux, autonomes et réactif, je pense que dans notre univers, ça permet d'être peut-être même plus efficace qu'en étant au studio, parce que du coup, tu as ton propre t'as ton setup en fait, et souvent les setups de ceux qui travaillent dans le monde du jeu vidéo à la maison, ils ont un setup quand même qui est agréable. Et où auquel on a nos écrans, on a notre bureau, on a tout ce qu'il faut à côté, on n'a pas le stress des transports. Enfin, ça coupe beaucoup de choses. Et si on sait transformer l'essai, je suis assez convaincu qu'en remote, on est très efficace. Mais c'est pas à la portée de tout le monde.
Non, c'est sûr. C'est sûr que c'est pas la partie de tous, et puis je l'ai bien vu en expérimentant avec certaines personnes ou qui n'étaient pas forcément à même de communiquer spontanément sur les canaux, et c'était dur du coup de travailler avec ces personnes-là en remote parce que moi j'avais tendance tout le temps, tous les jours, à envoyer des messages, des machins quand il fallait. Je déteste aller chercher l'info, quoi. Je déteste quand et j'aime bien que, bah, que ce soit naturel, que tous les jours on m'envoie un message en disant, bah, voilà, j'ai avancé sur ça, etc., et que ça avance de façon un peu naturelle et que j'ai pas toujours à dire, hey, qu'est-ce que tu as fait? Et ce genre de choses, c'est des fois, bah, c'est juste gymnastique de dire, bon, bah, j'ai avancé sur ça, j'envoie juste un message à tout le monde en disant que j'ai avancé sur mes tâches et tout. Et parfois, ce genre d'organisation est un peu complexe. Et après, l'autre côté aussi qui est un peu perdu, c'est toutes ces discussions de machine à café et tout qu'on peut avoir
Oui, bien sûr.
on peut avoir de façon non codifiée, non structurée et qui sont des fois très enrichissants pour comprendre un peu, des fois juste, bah, si quelqu'un a un problème, un souci, ou je dis, ah, bah, tiens, j'ai pas pensé à ça, et puis juste à faire des ping-pong d'idées, ça peut débloquer des choses sur lesquelles on est coincé sans avoir à prendre du temps de quelqu'un d'organiser une réunion, quoi que ce soit, quoi. Moi, j'ai un peu connu plein de choses, hein, où il y a des full remote, où je passais mon temps en réunion, donc je me suis dit, mais c'est complètement. Voilà, c'est complètement idiot. Donc, je passais une réunion à une réunion et en fait, je n'en sais pas du tout. Donc, ça ne changeait pas grand-chose d'être sur site, hein, parce que sur site, tu es passé en réunion et ou en remote en réunion, c'était pareil. Tu ne travailles pas, quoi, finalement, tu fais des réunions. Et après, il y a des remotes qui marchent plutôt bien où tu as beaucoup de liberté et tu peux faire des points vraiment très ponctuels avec un minimum de réunions et des choses, un maximum de choses par écrit. Donc, c'est vrai que l'écrit, beaucoup de choses passent par écrit et c'est vrai que ça, c'est aussi une autre culture, une autre mentalité à apporter, quoi. Là, dans le pool, ouais.
Du coup, quand on regarde ce que Roll7 donne comme tips, et vous aurez tout ça sur le lien qu'on vous mettra à la suite du podcast, il y a quand même deux points qui sont importants et qui sont, je pense, vraiment assez propres à la culture full remote. C'est le soutien à la santé mentale et la célébration des succès, qui sont, au final, quand on lit ce qu'ils veulent entendre par là, trouver des moments où on peut faire un break dans le travail, être toujours dans l'ambiance de travail, mais parler d'autres choses, mettre en avant les personnes, leur travail, l'impact, et les tirer un peu vers le haut. Parce que c'est vrai que en full remote, on peut aussi des fois se sentir isolé, à
Oui, tout
voir
seul,
moins de
quoi.
personnes, et il suffirait qu'on soit un peu beaucoup extraverti, et on pourrait après être beaucoup plus. On en aura besoin d'avoir ça, quoi. Donc faut faire attention.
Et puis c'est vrai que voilà, soutien à la santé mentale, c'est aussi passe aussi sur le fait de pas faire de crunch, des choses un peu classique on va dire dans l'industrie, hein, qui est de pas faire plein d'heures sup pour rien, et de vraiment d'encourager tout le monde, d'être bienveillant, célébrer les succès, c'est comme tu dis, c'est de reconnaître la réalisation individuelle, donc prendre un temps pour dire bravo à tout le monde quand il y a quelque chose qui est sorti, s'il y a la milestone importante qui est atteint, de vraiment célébrer ça même si on est à distance. Après, ça n'empêche pas dans Roll7 de voir les gens de temps en temps. Ils essaient de faire en sorte que ils prennent en charge les frais des voyages des personnes pour qu'ils se retrouvent on-site de temps en temps. Et ça, c'est plutôt pas mal pour rencontrer des personnes de façon régulière. Voilà, de pas avoir que des gens en full remote et jamais les voir. Donc, de temps en temps, organiser des choses comme ça en remote, c'est ce qui est vraiment intéressant, quoi.
Complètement, après, il faut pouvoir se le permettre.
Ouais. Moi, je sais qu'il y a des entreprises qui ont été créées sur le modèle du remote. Bon, le meilleur exemple, c'est, bah, ceux qui ont sorti un livre qui s'appelle Remote, d'ailleurs, qui est fait par la société 37 Signals, qui est la société qui a créé Basecamp et qui sont les parents du framework Ruby on Rails. Eux, ils sont des fervents défenseurs du remote. Ils ont des gens sur plusieurs time zones. Il y a des gens aux États-Unis, des gens au Danemark, et ils ont mis tout un livre aussi sur comment travailler à distance de façon efficace, et c'est hyper intéressant, c'est pas très cher, c'est disponible sur Amazon ou n'importe quel libraire remote, vous pouvez l'acheter, c'est très enrichissant si vous voulez mettre en place une équipe remote. Et puis cet article aussi de Roll7 qui lui est plus dédié à du jeu vidéo, c'est quand même pas mal, et il y a des choses qui se retrouvent, enfin qui se recoupent entre les deux, entre ces deux ouvrages. Voilà, je sais pas si vous voulez rajouter d'autres choses toi là-dessus.
Non, non, parce que je pense qu'on a dit l'essentiel. Après, ça sera un peu la sensibilité de chacun.
Et ce qui est vrai après, juste pour compléter, c'est qu'il y a moins en moins d'entreprises qui sont ouvertes au full remote. Là, le mieux qu'on ait trouvé maintenant, enfin, on trouve plus facilement peut-être de l'hybride, mais j'ai l'impression que même l'hybride commence à se raréfier, où des studios demandent aux personnes de se préparer à faire du full-time,
Tu
full
trouves?
office. Oh, ça revient, ouais, ça revient de plus en plus, le full office, où les entreprises qui étaient allées sur du remote ou même du hybride commencent à demander à ce que les employés se préparent à revenir au boulot à 100% bientôt, quoi.
Mais dans les grosses structures, non?
Ouais, peut-être plus dans les grosses structures, ouais. Mais
Parce que moi, j'ai de l'expérience dans des grosses structures, mais qui ne sont pas dans le jeu vidéo. Et en fait, ils ont d'énormes locaux parce que c'est des géants, des énormes locaux qui sont devenus vides. Et en fait, ils se disent, mais c'est hors de question qu'on paye ou soit un crédit, soit une location pour ces locaux, alors qu'il n'y a personne dedans. Et ils ont du coup, plutôt que se dire, bah, en fait, on va déménager dans plus petit, ils rapatrient tout le monde, ce qui est très bizarre. Je ne comprends pas l'intérêt. Mais voilà, là, c'est vraiment dans l'informatique SS2I
Oui, mais
enfin,
il y a des.
classique,
Ça
là.
dépend vraiment, évidemment, mais oui, j'ai l'impression que c'est plus les gros qui sont dans cette logique de on veut ramener tout le monde au bureau. Et je ne sais plus le nom de l'entreprise, j'ai vu passer une news où qui avait demandé aux gens de revenir sur l'hybride, d'arrêter le full remote et puis de se préparer pour, je crois, l'été 2024 pour revenir full time au bureau, quoi. Donc, il a déjà reçu, il a renégocié aussi les contrats de remote et tout. Donc, ouais, il y a des petits changements là de retour en arrière, de post-Covid ou certaines entreprises. Voilà. Après, ben, c'est vrai que je trouve ce que j'ai vraiment perdu en étant full remote depuis des années, c'est la culture d'entreprise qui a plus de mal à être dispatchée, véhiculée au sein des gens qui sont le temps à distance parce que finalement bah, tu partages pas trop la réalité de la boîte au quotidien donc tu as du mal à voir quand tu es en full remote comme ça les enjeux etc donc ce que j'apprécie c'est comme tu entends d'avoir quand même une sorte de keynote ou quelque chose une présentation des fondateurs pour dire bah, voilà c'est quoi la stratégie etc ça permet de renouer un peu avec la vision de la boîte mais c'est vrai que sans ça c'est quand même compliqué de vraiment partager où on sent où est la stratégie quelle est la valeur etc est-ce qu'il y a des choses qui ont changé est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé et puis de se rappeler pourquoi on travaille sur quelle valeur on travaille c'est aussi important et donc ça c'est très dur, je trouve, en full remote de l'avoir, quoi. Donc, il y a des pour, il y a du. C'est vrai que voilà, de ne pas se taper les bouchons tous les matins et tous les soirs, ça, c'est quand même ses avantages. Et pouvoir, comme tu dis, travailler dans des conditions
Et puis pouvoir travailler à la
confortables.
camp enfin vivre à la campagne et travailler pour une ville donc avoir le confort de la campagne et pas les inconvénients de la ville, enfin il y a plein de choses hein, qui sont en jeu.
C'est ça, c'est exactement. Ouais. En tout cas, ouais, article super intéressant, Roll 7, allez le lire, gamindustrie.biz, on mettra le lien en note de l'émission. Et passons à une petite news rapide peut-être là, mais c'est une news que j'avais vu passer sur la FJV, sur une colloque, c'est la cinquième colloque du CNJV au sujet de la programmation en jeu vidéo. Donc c'est programmer un jeu vidéo du basique à l'IA. Si je ne me trompe pas, le titre exact. Ça se passe le samedi 2 décembre 2023 au Forum des Images, salle 500 de rue du Cinéma à Paris. On mettra bien sûr le lien de l'article de la BJV. Donc une programmation super intéressante voilà, sur programmer un jeu vidéo, sur les 40 ans d'évolution. Et il y a un petit after en rétro 83. Donc, ouais, si vous êtes sur Paris et que vous pouvez vous y rendre, ça paraît assez intéressant. Si, voilà, les entrées ne sont pas si chères que ça, hein, je crois que c'est une dizaine d'euros.
Je pense que c'est une sacrée opportunité pour développer sa culture générale sur le milieu, parce que vu le thème, c'est quand même le plus gros écart, le plus grand écart que tu puisses faire, quoi. Parce que j'imagine qu'ils vont parler de Pong et Tetris pour finir sur les maintenant quadruple A d'aujourd'hui, quoi.
Oui, et puis il y a pas mal d'intervenants qui viennent. Bah, après, ça a mélangé beaucoup de professionnels et beaucoup d'universités aussi. Il y a des chercheurs et des professionnels dans le milieu. Il y a par exemple des personnes de Darwise, Marc Albinet, qui est un expert en game design, hein, qui va venir faire des tables rondes. Il y a aussi, voilà, comme je disais, des universités. Des écoles qui seront là aussi. Il y a la thématique de l'IA, il y a la thématique effectivement de l'historique de développement, mais aussi sur toute la partie IA avec des gens qui sont vraiment à l'usage de l'IA actuellement, donc comment ils utilisent l'IA pour le jeu vidéo. Donc ça peut être aussi intéressant si vous posez des questions sur OK, il y a l'IA, comment je peux m'en servir, peut-être qu'il y a des articles, etc., qui existent sur Internet ou sur YouTube, qui ne sont pas vraiment parlants, là, d'aller voir des personnes qui l'utilisent peut-être dans leur production, dans leur jeu ou au quotidien. Ça peut quand même être assez intéressant de voir. Et puis il y a aussi des figures emblématiques de la presse du jeu vidéo. Voilà, des titres qui n'existent plus, hein, comme Tilt ou des anciens de, bah, par exemple, il y aura aussi Bruno Bonnel, sur le fondateur d'Infogrames, hein, de nous qui sommes un peu de la racine villeurbanaise, c'est important, Bruno Bonnel, qui sera aussi là. Donc il y a des gens du jeu vidéo magazine, voilà, il y aura plein de gens. Donc c'est sûr que si vous avez l'occasion d'aller faire un tour, c'est quand même assez sympa, c'est un bon endroit pour apprendre un maximum de choses sur la thématique de développement du jeu vidéo et l'évolution qu'il a connue ces 40 dernières années. Et on mettrait les liens en note de l'émission. Je sais pas si tu voulais rajouter d'autres trucs là-dessus, mais
je pense qu'il faut y aller si vous avez l'occasion.
Ouais, t'as raison. Et ben écoute, je te propose qu'on passe à la news suivante, c'est Sentry et Steam Next Fest.
Ouais.
Est-ce que t'as suivi toi ce festival?
Bah oui, parce que à la base je devais y être et puis finalement on a changé notre cap et pour le mieux et c'est ouais. Fou de se rendre compte à quel point le Steam NeoFest, enfin le Steam Next Fest, c'est ouais. Un rouleau compresseur en fait. C'est-à-dire que tu as intérêt à être bien armé et à savoir exactement comment tu vas te vendre et avoir prévu ton marketing là-dessus pour pouvoir briller. Donc ouais. Là, je suis assez content de voir que Sentry a bien fonctionné au-delà même de leur espérance. Et quand on voit leurs chiffres, ça met bien en perspective un peu les milestones à essayer d'atteindre. Parce que là, rapidement, ouais. Donc Sentry, c'est un jeu de tir à la première personne extrêmement nerveux où on peut vraiment interagir avec son environnement pour avancer dans les niveaux. Et ouais.
Quelques éléments de leur défense, je crois, c'est ça. Il y a des.
Ouais, je crois. Là, ils ont posté donc une news de fin de Steam NeoFest pour remercier tout le monde, et ils expliquent qu'ils ont dépassé les 80 000 wishlist, qui est énorme. Ouais. Enfin, en tout cas, je trouve ça énorme.
Oui, c'est énorme.
Et eux-mêmes, ils disent que voilà, si on veut vraiment être mis en avant par Steam. Lorsqu'on sort en early access ou si on sort directement en V1, il faut vraiment, vraiment avoir beaucoup de wishlists. Parce que c'est comme ça que les algos de Steam vont te repérer, te mettre en avant. Parce que bon, bah forcément, eux, ils se disent, bah, s'il y a beaucoup de wishlists, il y a beaucoup de ventes théoriques. S'il y a beaucoup de ventes théoriques, je me fais de l'argent sur ce jeu.
Ouais.
Ce qui est logique. Vu qu'ils prennent 30% de toutes les transactions sur leur plateforme. Voilà, là, je vois la couverture des influenceurs, on se retrouve à 32 YouTubeurs et 36 streamers Twitch. Je trouve ça même léger en comparaison aux 80 000 wishlists. Donc, ça se trouve, il y a peut-être des gros YouTubeurs et Twitchers dessus, ce qui ne serait pas déconnant.
Ouais, je pense qu'il y a de ça aussi. Hein. Enfin...
Donc ouais, et ça je trouve c'est intéressant quand les studios donnent leurs chiffres et expliquent un peu l'envers du décor, parce que là on parle uniquement des wishlists les plus populaires de Steam. Alors bien sûr qu'un jeu comme Sentry qui est développé par un studio indépendant ne peut pas rivaliser avec les 50 premiers, mais en ayant 80 000 wishlists, ils sont seulement à la 276e place. Donc ils sont passés de 351 à 276. Donc ça montre quand même l'envergure.
Les plus gros, ouais. Les plus gros, je sais pas à combien ils sont du coup.
J'aimerais bien savoir le premier à combien il est, pour avoir une échelle. Là on sait que 276, ça tourne autour de 80 000.
Ouais.
Le premier il est à quoi? 500 000? 1 million? Est-ce qu'on peut avoir 1 million de wishlist?
Ça me paraît délirant. Enfin,
je sais pas comment on peut le voir ça.
Ouais. Je pense qu'il y a des trucs de tracking pour savoir un peu les. Je regarde un peu comment c'est fait sur justement le tracking, parce que c'est quand même assez assez dur. C'est d'ailleurs C'était aussi un des trucs qui est assez pénible sur les jeux PC Steam par rapport à des choses sur le mobile où on a plein d'outils tracking, data analyse, etc. Moi, je les connais un peu, moi, sur PC et sur Steam, il y a deux, trois trucs qui me permettent de voir les données, mais la partie wishlist, je ne l'ai pas trop. Peut-être qu'il faudrait que je trouve un outil qui me donne ça. Mais c'est vrai que c'est.
Je serais intéressé parce que du coup, Steam, à la fin de chacun de ces Steam NeoFest, balance les 50 démos les plus populaires.
Ouais.
Et donc là, pour celui-là, ben, le plus populaire, c'est Entrouded, qui est un futur gros hit, clairement. C'est de l'action RPG dans un monde ouvert de survie et de construction de base. Donc les
Ok.
mecs, ils ont coché l'ensemble des cases qui font des gros hits. Ils
Il y
veulent
a cette
mettre ça
grosse
tous dans
boîte
un.
derrière, non? Non, je sais pas, je les connais pas.
Alors attends, je vais te dire tout de suite qui c'est
Et puis on
King
fait
Game.
Portal, ouais, Portal Knight, c'est déjà un
Ouais.
hit avant, ouais.
Voilà, donc c'est pas donc des mecs vachement balèzes. Et après, là, je donne juste les cinq premiers pour se donner une idée. On a
Ouais.
Japanese Drift Master,
Ok.
donc qui a l'air d'être un gros gros concurrent dans l'univers des jeux de bagnole.
Ok.
On a Sky Children of the Light, qui est un. Je connais pas du tout, c'est quoi? C'est une sorte de MMO. Les tags, c'est MMO casse-tête, indépendant, réconfortant et aventure.
D'accord.
Vous ferez votre avis.
Ok.
Après, on a Robocop, Rogue City. Donc, Robocop, ça, j'avoue, il me fait de l'œil, celui-là, parce que c'est quand même un univers. Je sais pas, est-ce que ça a déjà été adapté? Je pense que oui, il y a longtemps,
De
dans les années
quoi?
90, peut-être, non?
Robocop?
Robocop.
Ah oui, il y
Ouais.
a plein de jeux. Ouais.
Il y en a plein?
Depuis...
Ouais.
Oui, depuis la Super NES, t'en as plein. Même la
D'accord.
NES, pardon, je veux dire. Même
Et
la...
ça a déjà été adapté sur PC?
PC, je sais pas. De mémoire, je n'ai pas souvenir. Peut-être ouais, peut-être sur. Alors, PC, Atari, non, je sais pas, tu comptes.
Ouais, bon.
Amstrad ou Commodore, je sais pas, tu vois, des vieux trucs. Alors, PC, récemment, non, ça me dit rien, tu vois, sur les. Depuis qu'on est sur on va dire Windows 7, je ne suis pas sûr qu'il y ait des versions de Robocop qui soient sorties. Mais ouais.
Et le cinquième, qui est dans ma wishlist d'ailleurs, c'est Foundry. Et Foundry, c'est pour les amateurs de Satisfactory,
Ah oui, ok.
Factorio,
Ouais.
tous ces jeux-là. Et ben, ça en est un nouveau.
J'en connais des fans, ouais, ok.
Et ben,
Ouais.
clairement, parce que c'est vraiment génial, c'est un nouveau. Je trouve que dans sa DA et son approche, avec ce qu'on peut voir, ça se rapproche beaucoup de Satisfactory par rapport aux autres. Et on est dans du voxel. Donc avec toute la pâte graphique
Et
voxel et
derrière, tu vois,
puis le côté cube.
t'as quand même paradoxe derrière, quoi.
Bah,
On
de
est
toute
clair.
façon, tu peux pas être top 5 sans avoir une énorme structure derrière.
Bah, et c'est là où, en fait, ils ont fait fort, je trouve, bah, les gars de Sentry, hein. C'est ce qu'ils qualifient, enfin, dans l'article Fireblade, qui est un micro-studio, donc j'imagine qu'il doit être un ou deux, je sais pas combien ils sont. Je crois que peut-être, non, attends, qu'est-ce qu'ils disent dessus? Je crois que ouais, ils sont peut-être deux, enfin, je dis cinq, voilà, je sais pas combien ils sont dessus, en fait, exactement, mais ils sont vraiment pas beaucoup, quoi. Ils doivent être deux ou trois. Enfin, si ce qu'ils font dans le micro-studio, c'est pas, enfin, ça peut pas être plus de cinq personnes, je pense, dans cette boîte. Et ils ont quand même réussi à atteindre, tu vois, cette place, c'est quand même génial, quoi, d'avoir presque 80 000 wishlists. Donc avant, c'est quoi? Ils ont une augmentation de 30%, c'est ça, de wishlist lors du festival? Ils ont le Steam
Ouais, c'est ça.
Next, donc comme tu dis, ils sont bien remontés dans le classement. Et après, ils avaient lancé la démo, c'est ça, pendant le Steam Next Fest.
Ouais, c'est ça, ils ont lancé la démo là-bas, celui-là, le Steam
Ouais.
Next Fest. Ouais, clairement.
Donc ouais, enfin, c'est juste une super prouesse pour ce studio, et on espère que bah,
Complètement.
ça explosera bien et que ça ira dans le bon sens pour eux, parce que c'est clair qu'ils ont l'air d'être vraiment tout petits par rapport aux autres, et ils ont réussi à sortir du lot, comme quoi on peut toujours le faire. Bon, je sais pas s'il y a des facteurs de chance ou
Bah,
d'autres choses qui interviennent.
je pense qu'il faudrait se renseigner, mais je pense pas que ce soit le premier jeu des personnes qui travaillent derrière ça. Je pense que c'est des gens qui ont de l'expérience, qui savent comment ça marche et qui ont tout de suite mis les bonnes briques au bon moment, au bon endroit.
Ouais, et puis ils ont vraiment fait un travail de fond, là, quand je vois, tu vois, avec les
Ouais.
influenceurs, ils ont vraiment bossé énormément sur le côté influenceur. Ils ont contacté des gens, ils ont établi une relation de confiance avec pas mal d'influenceurs qu'ils ont couvert, et ça a vraiment boosté, je pense, aussi pendant ce festival, quoi. Mais après, ce qui est intéressant, enfin, vas-y, hein, je sais pas si tu voulais rajouter un truc.
Je voulais juste parler, parce qu'en même temps qu'on en parle, je suis en train de regarder cette fameuse liste des 50. Et à la 19e place, donc on est quand même déjà bien placé, on a Ascent of Aishes. Et Ascent of Aishes, c'est le prochain jeu du studio qui a fait RimWorld. Et RimWorld, sur Steam, pour se donner une idée, c'est. Parce que c'est assez démentiel, c'est 145 000 évaluations
Ah ouais,
pour
d'accord.
un petit studio. Alors c'est marrant parce que c'est pas le même studio derrière, donc ils ont dû créer une autre boîte ou je sais pas quoi. En tout cas, il est marketé comme ça, il est marketé le prochain jeu de ceux qui ont fait RimWorld. Derrière, il faut quand même un méga 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 hit comme RimWorld pour faire 19e place en étant indé sans avoir un gros éditeur derrière. Ça permet de mettre en perspective. Par contre, j'aimerais juste finir sur un truc. C'est pas parce qu'on n'est pas dans les 50 premiers qu'on ne peut pas en vivre et qu'on ne gagnera pas d'argent pour faire nos prochains projets et vivre une belle aventure de studio indépendant. On n'a
Non, c'est
pas du
certain.
tout besoin de ça. Hein.
Et puis en fait, c'est ce que je disais aussi l'article, c'est que en fait le Steam Next Fest, c'est ça. Il est quand même assez particulier, devenu hyper concurrentiel. Il y a de plus en plus de monde, et que pour sortir un peu du lot, c'est quand même compliqué. Donc il faut avoir un bon plan marketing, un bon plan de com, comme tu disais, vraiment anticiper un peu tout ça pour y aller à fond. Il faut pas sous-estimer, sous-évaluer ça pour performer un maximum de tir profit de cet événement. Voilà, essayer de vraiment préparer la chose pour parce que voilà, il y a énormément de monde dessus, quoi. Il
Ah, bien
faut,
sûr.
voilà.
Bah, non, mais complètement. Donc, c'est faut faire attention et il faut savoir contre qui on joue, l'accepter et faire en fonction.
Ouais, ce que je dis, c'est un peu comme l'extension. Enfin, on retrouve un peu les mêmes problématiques que sur Sim. C'est plus t'as de chiffres, plus t'as fait de volume, plus tu es visible, quoi. Et bah, les gros deviennent encore plus gros, en fait. Ça profite encore plus à des gens qui ont des moyens. Mais c'est pas pour autant que, comme tu disais, Benjamin, que tu peux pas vivre de tes créations.
Bien
Voilà,
sûr.
il faut
Et
juste.
puis, il faut se dire un truc, c'est que là, sont hors concours ceux qui sont déjà sortis et qu'on peut déjà payer. Donc, ça enlève déjà beaucoup de gros. C'est ça
Ouais,
ce
c'est
qu'il
ça.
faut se dire.
Donc ouais, bon, c'est toujours un événement intéressant. Il faut bien le préparer, un peu comme tout, hein, je veux dire, même quand on fait des campagnes de Kickstarter, etc. Il faut bien les préparer. Donc là, c'est pareil, votre Steam X Fest, si vous pensez le faire, préparez-le bien en amont, avec prenant des infos un peu à gauche à droite. On mettra l'article, hein, en note de l'émission, pour donner une idée de comment eux ils ont réussi à faire cet exploit Sentry. Donc ça donne pas de formule magique, mais ça permet de s'inspirer peut-être un peu des pratiques, et de voir comment on peut mettre en place votre stratégie de Steam Next Fest si vous comptez participer. Parce que la prochaine édition, tu m'as dit qu'il y a plusieurs éditions par an, c'est ça, de
Il y en a trois.
la 3, ouais, c'est ça.
La prochaine, c'est février. Et souvent, ça
D'accord.
fait février, juillet, octobre, ou février, juin, octobre.
D'accord.
Enfin, voilà, il y en a trois, une par saison, grosso modo.
Ouais, une part, ouais. Ok, ouais. Bon, bah voilà. Si tu voulais préparer la prochaine édition, il faut déjà commencer à y réfléchir.
Ouais,
Écoute,
exactement.
je te propose qu'on passe à cette nouvelle rubrique que
Rubrique.
tu avais proposée, la cascade de news. Je
Jingle.
te laisse.
Ah, il n'y en a pas.
Faut que je te prépare. Faut que je prépare un jingle. Hein. Attends, tiens, ça va plus au boulot là. Je suis attendu.
Ouais, en fait, je vais expliquer vite fait, juste sur cet épisode, pourquoi la cascade des news. Il y a beaucoup de news dans notre univers, heureusement, parce qu'il est tellement florissant et en constante évolution que si on flâne à droite à gauche, sur Twitter et sur d'autres sites, on trouve toujours des petites informations. Mais elles vont pas forcément besoin qu'on reste dessus pendant 20 minutes, 20, 25 minutes. Donc là, l'idée, c'est que je vais vous sortir, là, il y en aura 6 news. Globalement, c'est sur le marché du jeu vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé en septembre et ces dernières semaines? Je vais essayer de trouver à chaque fois des news qui vont parler un peu de ça. Donc, je vais y aller. Je vais expliquer. Et des fois, je vais faire un peu des ponts, mais on va pas trop s'attarder sur le sujet. Est-ce que ça te va comme ça, Antoine?
Ouais, vas-y, vas-y. Et puis j'essaie de rebondir sur des trucs, c'est des trucs intéressants. Non, non, sur
Ok.
lequel je suis pertinent, vas-y, je te laisse.
Du coup, je commence. Alors, il y a 2 semaines, nous parlions du deal Blizzard Activision avec Microsoft. Blizzard Activision et King. Et là, du coup, nous apprenons que Farm Heroes Saga, qui est l'autre succès de Kings, dépasse les 1 milliard de chiffre d'affaires. Et on apprend également qu'ils sont passés de 50 millions de monthly active users en 2020 à 200 millions en 2023, ce qui explique du coup cette pulvérisation du chiffre d'affaires. Et
Ouais.
dans le lien mis en description de mémoire, ils expliquent un peu le travail qu'ils ont fait sur la rétention des joueurs et comment ils ont appliqué toutes ces nouvelles méthodes, toutes ces recherches dans Farm Heroes Saga pour quand même augmenter de x4 le nombre de monthly active users. 200 millions, c'est énorme.
Moi, j'ai toujours pensé qu'ils avaient que Candy
Candy
Crush,
Crush?
mais ouais, non,
Et non,
autre
et non, non, il y a le
c'est
petit frère
vrai.
qui est une copie
Ouais, non,
de,
c'est très
mais
proche,
pas
mais
pareil.
ouais.
Bien sûr, la dernière fois, on parle de Microsoft à la part belle, et on disait la dernière fois que Sony avait un peu peur de cet accord, notamment par rapport à Call of Duty, qui allait peut-être sortir du catalogue de Sony et que pour le marché PlayStation et que ça leur plaisait pas. Mais pour autant, la semaine dernière est sorti Marvel Spider-Man 2, oui, non, c'était cette semaine, la
Ouais,
semaine dernière.
dernière,
Et donc, Marvel Spider-Man 2 a cassé les records. Il s'est vendu à pas moins de 2,5 millions en un jour, ce qui fait qu'il a le record historique du jeu le plus rapidement vendu sur une console PlayStation. On retrouve en deuxième place Marvel Spider-Man 1 à 3,3 millions en 3 jours. Et God of War Ragnarok à 5 millions en 5 jours. Là aussi, on est vraiment sur des chiffres hallucinants.
ouais.
Tout va pas si mal pour Sony.
Oui, ben c'est clair qu'ils n'ont pas trop de quoi avoir peur pour l'instant au vu des chiffres. Et on verra avec les rachats, les exclus et tout ça si ça change. Mais pour l'instant, oui, on n'a pas trop à plaindre Sony et la
C'est
PlayStation,
sûr.
quoi.
Carrément. Et donc, du coup, on parle de Sony, de Microsoft et de tout ça. Et bien là, je vais vous parler du marché US. Alors là, ça va être les chiffres de septembre 2023. Étant donné que le mois est fini, qu'ils sont en train de scruter un peu ce qui s'est passé, on commence à avoir des chiffres qui ressortent. Et donc, on apprend que le marché US a fait plus 10% par rapport à septembre 2022 pour atteindre 4,5 milliards de dollars. Ça porte le chiffre annuel, donc les 9 premiers mois, donc de janvier 2023 à septembre 2023, à 40 milliards. Ce qui est quand même extrêmement impressionnant, je trouve.
C'est
Et ça ne
énorme.
fait qu'augmenter en plus, parce que je crois que ça a augmenté de 5,8. Enfin, vous le verrez dans le lien si vous le lisez. Il y a tous les chiffres. Et les 3 plus gros jeux de septembre sur le marché US sont Starfield, Mortal Kombat 1, donc le remake du reboot de la suite qui en fait est dans le passé, et FC 24, donc le fameux FIFA 24,
Ouais.
mais qui s'appelle plus
Est-ce que
FIFA.
ce qui est marrant de remarquer, c'est quand même que Starfield n'est pas un jeu PlayStation, du coup.
N'est pas un jeu PlayStation, non, 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 mais non, non.
Et il n'est pas sur la plateforme PlayStation, mais il fait partie des plus gros jeux de septembre, quoi. Donc,
Parce que là, du coup, on est sur le marché US dans sa globalité.
ouais, mais c'est quand même intéressant de voir que y a quand même des choses qui bougent un petit peu, que Microsoft arrive quand même à profiter de ces rachats, ces multiples rachats, pour faire des
Ah
choses
oui,
qui
bien
marquent,
sûr.
quoi, comme Starfield, même si
Ouais.
c'est une exclue, je crois qu'il est sur PC aussi, non? C'est PC Xbox, Starfield, si je ne me trompe pas. Et donc, ils arrivent quand même à faire des hits comme ça en n'étant pas cross-plateforme totale, quoi.
Oui, complètement. Et puis Starfield, après, en même temps, c'est Bethesda, donc c'est toujours une machine de guerre incroyable qui se met en place. J'ai l'impression qu'il y a eu un peu des levées de boucliers à la sortie, mais que maintenant, tout le monde est plutôt content de ce jeu.
Ouais.
C'est pas du tout mon cœur de cible. Moi, j'aime pas vraiment les jeux qui se passent dans l'espace, donc je me suis pas trop intéressé. Mais les gens qui jouent autour de moi me font que des retours assez positifs sur le jeu, quand même.
D'accord.
Donc voilà
Et
pour le marché des US, et cette fois on va prendre l'avion et on va aller en Asie du Sud pour parler des C6. Alors les C6, qu'est-ce que c'est? C'est le Vietnam, Singapour, Indonésie, Thaïlande, Malaisie et les Philippines. Et du coup, pourquoi on parle d'eux? Parce qu'en fait, en ce moment, ils sont vraiment d'avoir une grosse expansion avec des augmentations annuelles à prévision presque à deux chiffres pour 2027. Et donc, ce marché représente 5,8 milliards en 2023. Ce qui est donc bien sûr moins que le marché des US, mais en même temps, ça s'attendait pas forcément à ce que ce soit aussi fort de leur côté. Et on apprend également que 66,4% des revenus de ce marché se fait sur les jeux mobiles. Et que ça
c'est ce que j'allais dire justement. C'est que souvent, c'est tous ces nouveaux marchés qui sont émergents. En fait, on voit que le focus est vraiment porté sur le mobile et pas sur les mêmes plateformes que nous, on a l'habitude de voir. Quoi. Pas de console, pas de PC. C'est principalement du mobile.
Carrément. Mais c'est vrai qu'ils ont une culture, une relation avec le mobile qu'on n'a peut-être pas encore forcément, nous, par rapport au jeu en tout cas.
En plus, il y a certains pays où ils n'ont pas connu le passage comme nous on l'a eu, tu vois, du PC. Où la population, en fait, la première chose qu'ils ont, c'est un téléphone, quoi. C'est d'accord. Là où il y a plein de pays, en fait. Nous, on a connu l'ère... je prends l'air Minitel, PC, tu vois, on a vu toutes ces évolutions avec toutes ces consoles, tous ces PC, etc. arriver. Et du coup, ça a créé vraiment des groupes chez nous de gens vraiment passionnés qui ne jurent que par des jeux PC, que même la partie console, tu vois, il ne faut pas leur en parler, et encore moins le mobile. Et alors que dans ces pays-là, en fait, ils n'ont connu que le mobile. Le mobile est arrivé, c'est des populations qui n'ont même pas accès à des PC chez eux, et ils se retrouvent avec un ordinateur super puissant finalement entre leurs mains, quoi, qui est un téléphone portable, un smartphone, qui reste accessible pour une centaine de dollars. On a un téléphone super, super performant, et ils peuvent aussi jouer dessus, et donc ils découvrent les jeux par l'intermédiaire de cet appareil, alors que ce n'était pas du tout des gamers PC ou consoles. Donc pour eux, c'est naturel de vivre avec l'écosystème mobile, avec tout l'aspect free-to-play, in-app, pub, etc. Quoi. Donc ça ne m'étonne pas, c'est plein de marchés comme ça, des marchés émergents qui sont vraiment mobile first, et ça va être de plus en plus.
Donc du coup, si vous êtes un studio qui s'oriente surtout sur du mobile, eh ben, peut-être regardez du côté du marché de l'Asie du Sud et regardez comment vous pouvez le rendre accessible chez eux, parce que ce sera peut-être vos futurs clients. Et deux petites dernières infos sur ce marché. L'Indonésie et la Thaïlande regroupent 46% des revenus du secteur. Donc vraiment, lorsque vous faites de la pub, essayez de cibler l'Indonésie et la Thaïlande.
Et traduire aussi.
traduire, clairement. Clairement traduire. Et les fameux C6 représentent 288 millions de joueurs. Donc, plus que la France, largement.
Ouais, largement plus. C6, ouais, voilà. C comme la mer, ouais, d'accord, C6. Okay.
Ouais, exactement, C6 pour la mer, donc c'est les 6...
Six mers, ouais.
Les 6 mers, les 6 mers. Avant-dernière news, petite news pour parler de Netflix. Netflix qui, finalement, commence à se constituer un catalogue de jeux de plus en plus gros et à dépasser la barre des 82 millions de téléchargements. Alors, comment ça se passe? Eux, ils se posent en tant qu'éditeur, publisher, et ils rachètent des jeux pour les mettre sous leur effigie. Et il y a deux visions, en fait. Ils créent des jeux basés sur les IP de leurs séries à succès. Et donc, certains fonctionnent extrêmement bien et d'autres fonctionnent pas du tout. Et ils ont des jeux qu'ils ont ramenés sous leur étendard. Et il y en a un, et j'aimerais prendre 2 minutes pour en parler de celui-là, parce qu'il me fait... J'aimerais que des gens se penchent sur ce studio pour expliquer leur success story. Le cinquième jeu le plus téléchargé du catalogue de Netflix, c'est Bloon TD6. TD6, c'est Ninja Kiwi. C'est Ninja Kiwi depuis Bloons TD1 sur Kongregate, il y a peut-être 15-20 ans de ça. Ouais. Je ne sais pas s'ils ont fait autre chose que ça, mais tous leurs Tower Defense sont des succès incroyables. Et aujourd'hui, Bloons TD6 sur Steam, c'est à peu près 5 à 10 millions de chiffres d'affaires.
Incroyable.
Minimum. Enfin, c'est incroyable, ouais. Bloons TD, c'est incroyable. Ouais.
Non, mais je vois bien, ouais, mais tu vois, je dois l'avoir dans mes, dans ma bibliothèque Steam, mais je n'ai jamais lancé encore.
Bah oui, non, mais c'est
Mais
moi aussi
c'est.
je
Ouais,
l'ai.
mais je pensais pas que. J'avais pas vu que Netflix avait repris cet IP. Je savais pour, tu vois, le jeu d'Annapurna, 12 Minutes. Et il y avait aussi Into the Breach, je crois, qui est passé sur Netflix. Si je ne me trompe
Ouais.
pas, mais après les autres trucs, j'avais pas trop, j'avais pas trop les autres titres, mais ouais, c'est trop bien pour eux.
Donc voilà, donc on retrouve la première application téléchargée, c'est Too Hot to Handle, et qui est une série de type télé-réalité qui cartonne sur Netflix et qui du
D'accord.
coup a son adaptation.
Oui, c'est-à-dire
On
oui,
retrouve
Netflix qu'ils ont adapté en jeu vidéo, quoi.
exactement, on retrouve SpongeBob et toute la série de Bob l'éponge est sur Netflix, Stranger Things aussi qu'on retrouve sur Netflix. Donc voilà, et ce qu'ils expliquent, c'est que toutes les IP ne fonctionnent pas, et je crois que c'est le jeu de la dame qui a été adapté et qui fonctionne pas du tout. Ce
OK.
sera à vérifier.
D'accord.
Donc voilà pour Netflix qui du coup frappe de plus en plus fort et
Ouais.
qui,
Après, moi,
à mon avis,
j'avais vu un chiffre des joueurs des jeux par rapport à Netflix. Je crois que ça représente 1% des abonnés Netflix qui ont lancé un jeu.
ah ouais, quand
Alors,
même.
c'est pas énorme. Après, c'est quand même, ils ont quand même une grosse base d'abonnés.
Bah
Mais
ouais.
je sais pas si ça correspond au chiffre que tu as, mais c'est vrai que je me suis dit, bon, en fait, ouais, mais c'est vrai que moi, enfin, tu vois, je suis abonné à Netflix, mais je n'ai jamais lancé de jeu, quoi, Netflix. C'est parce que la plupart des jeux qu'ils ont dans leur catalogue, qui sont intéressants, je les ai déjà joués en dehors, bien avant que Netflix les rachète. Donc, et les nouveaux jeux, ça ne me parle pas plus que ça. Et les jeux sur leur IP, je t'avoue que ça ne m'attire pas plus que ça non plus. Donc, forcément.
On n'est pas la cible.
On n'est pas la cible, clairement, mais peut-être qu'il y a des, voilà, peut-être qu'il y a des intérêts,
Après,
mais
Into
quand je
the
vois.
Bridge,
Ouais.
jouez-y. Et
Oui,
c'est une
super,
pépite, ce
mais
jeu.
bon, tu vois, je l'ai sur GOG.
Oui, non, mais bien évidemment. Mais je pense aussi que ça. En fait, c'est une force émergente qui va être de plus en plus présente, je pense.
Et pour les développeurs, je pense que c'est pas mal. Tu vois, t'es un studio et
Ouais.
qui veut développer et qui a un bon potentiel. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils prennent pas trop de risques, mais s'ils arrivent à avoir une petite ouverture d'esprit en disant, OK, il y a peut-être du potentiel sur ces jeux qu'on connaît pas, au lieu d'acheter des trucs qui ont marché et les amener dans leur catalogue, bon, bah, ça va continuer à marcher, mais ça va pas forcément attirer du monde. Là, d'avoir plus des jeux faits par des indés et qu'ils publient. Financement publié comme ferait un Noble Games ou quelqu'un, une autre studio de publishing quoi, classique, ça serait plus intéressant pour eux. Et je pense que peut-être qu'ils arriveront à ce modèle-là en disant bah, si on veut développer ça, il faut qu'on fasse autre chose que. Pour moi, ils sont en train de faire la même connerie que Google avec Stadia. C'est on
D'accord.
fait pas d'exclus, on va prendre que des trucs qui existent, on va les mettre dessus. Donc pourquoi alors? Du coup, pourquoi tu irais sur cette plateforme? Bah, il n'y a aucune raison. Là, les seuls trucs, bah ok, il y a des adaptations de leurs IP en jeu, cool, mais ça donne pas plus envie que ça. Mais il faut vraiment qu'ils arrivent à apporter une nouveauté avec des IP pas forcément issus de leur licence, mais des choses qui a une forte identité pour pouvoir dire moi je suis allé là-dessus quoi. Ouya pour ça avait bien marché parce qu'il y avait une exclu Ouya qui avait cartonné qui était Towerfall qui était une exclu Ouya à l'époque. La console bon elle a marché elle a pas du tout marché mais le jeu était vraiment un bon succès et les gens des fois voilà il y avait une Ouya pour jouer à ce jeu et quand bon, la Ouya est tombée et l'exclu est tombée du jeu sur la Ouya ils sont arrivés sur PlayStation avec le PS Plus ça a fait un énorme carton quoi par la suite mais ils avaient réussi plus ou moins à avoir ça mais bon ça n'a pas suffi hélas mais pour moi il faut qu'ils arrivent à trouver leur identité dans leur catalogue de jeux qui fasse envie que bah, les je ne sais combien d'abonnés Netflix veulent lancer ce jeu-là quoi.
Je pense que une de leurs stratégies, c'est sûrement d'acquérir des IP ultra connus pour se faire connaître, et que c'est ça leur premier objectif, et après, peut-être aller
Ouais.
vers ce que tu es en train de dire.
Parce que là, en fait, ouais, ils ont 250 millions d'abonnés Netflix quand même, hein, à travers le monde, et il n'y a qu'un pour cent d'abonnés. Ouais, c'est ce que je viens de retrouver l'article. Ils ont plus de 250 millions d'abonnés, ils ont juste 1% de ces 250 millions qui ont lancé une fois un jeu par l'intermédiaire Netflix, quoi. Et
Ouais,
donc,
mais ça va. On en reparle dans 6 mois. On verra, ça va augmenter.
J'espère, j'espère. Et puis surtout, ça donnera plus de pistes aussi pour les devs. En fait, c'est ça aussi qui est intéressant, je pense.
Ouais,
C'est
carrément.
pas qu'ils laissent tomber comme Google, mais qu'ils continuent et qu'ils essaient juste d'ouvrir leur esprit sur l'édition de jeux indés plus diversifiée que ce qu'ils ont actuellement.
Exactement. Est-ce qu'on parle à la dernière news?
Allez, c'est parti.
Alors, celle-là, elle est incroyable. Négativement incroyable, mais elle est
Ah
incroyable. On apprend que Meta en est à 37,48 milliards de pertes sur, eh ben, du coup, donc Meta et donc tout l'univers VR que Mark Zuckerberg essaye de mettre sur le devant de la scène. Depuis le quatrième trimestre 2020, on est à 37,48 milliards de pertes. C'est incroyable.
Ouais, c'est un pari assez audacieux hein, de Mark Zuckerberg. Alors, c'est marrant parce que j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Là, j'en ai une formation il n'y a pas si longtemps et quelqu'un m'avait branché là-dessus et me disait, mais en fait, ils ont plus une vision start-up, quoi. Ils ont plus une vision où j'ai l'impression que. En fait, la personne ou la façon dont elle m'a exprimé ça, c'est de dire en fait, il y a Mark Zuckerberg qui a une vision du métaverse, de ce produit, et il met tout en œuvre pour le développer, mais sans interroger de savoir si ce produit intéresse quelqu'un. Il n'y a pas cette vision produit que pour avoir une startup où tu vas beaucoup te confronter au marché, au public, savoir si tu vois ce qui marche, ce qui intéresse le public et changer. Enfin, vraiment ce que tu vois, ce qu'on apprend un peu dans la partie lean startup où tu développes un MVP, tu vas le tester rapidement sur le marché, tu itères, tu pivotes, etc. Et là, on a l'impression que non, ils ont un fonctionnement chez Meta maintenant en mode plus grosse boîte où voilà, le patron a décidé de faire ça, on le fait quoi. Bon, bah, du coup, 40 milliards dans le vent, quoi, pour l'instant.
Alors, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, et je pense que lui, son objectif, c'est surtout de faire mûrir la VR pour que les futures lettres de noblesse arrivent, et que le jour où vraiment ça va prendre, et moi je suis convaincu à 1000% que ça prendra,
La
il y
VR,
a un
ouais.
moment, ouais, c'est sûr et certain. Enfin, moi j'en suis. L'AR, ça c'est sûr. La réalité
Ouais.
augmentée, ça va être un délire dès qu'on aura les devices adaptés pour qu'on puisse avoir l'AR de partout autour de nous facilement. Donc ça sera peut-être dans 30 ans, hein, je dis pas, mais le jour où ça arrivera, ça sera du Ghost in the Shell et du cyberpunk, en veux-tu, en voilà. Clairement, alors cyberpunk surtout, pas sur la partie modification corporelle, bien sûr, même
Peut-être
si
aussi, si,
on a déjà des pistes
je me rends compte,
là-dessus.
ouais.
Voilà. Mais voilà, et je pense que c'est ça, en fait, son objectif. C'est
Ouais, moi
de.
je suis vraiment VR sceptique, tu vois. Donc,
Ah ouais?
depuis, ouais, pas de chez.
Ça fait tellement d'avancées par rapport au. Alors, c'est pas forcément les meilleurs qui l'utilisent, mais ne serait-ce que pour alors, les stations pétrolières. Bon, dans l'absolu, c'est pas forcément très, très ouf, mais j'avais parlé avec un gars où, en fait, ce qu'il mettait en place, eux, c'était de la VR entre le technicien qui est sur la plateforme pétrolière et
Ouais.
l'ingénieur qui est dans les bureaux pour qu'ils se connectent et que l'ingénieur puisse expliquer en montrant comment il peut réparer la panne qui se trouve donc du coup à 5 000 km de lui, quoi.
Mais ça reste du professionnel, quoi, tu vois. Mais c'est surtout sur l'aspect
Ça
gaming.
reste du professionnel.
Mais sur la VR sur le pro, j'ai pas trop de doutes, mais c'est plus pour le gaming en fait. Je suis plus sceptique.
Ah,
Euh,
d'accord.
le, le
OK.
modèle gaming de la VR, j'ai vraiment du mal à être. Ouais, j'ai toujours eu du mal. Bon, la première fois que j'ai utilisé la VR pour du jeu, c'était dans un salon, je crois que c'était la foire de Lyon à l'époque. C'était en 98 ou. Je sais pas, dans les années 2000, un peu, bon, tu vois, par là où je sais plus à quelle année c'était le Dark Forces 2 qui était sorti, Dark Force, sur PC où il y avait déjà un casque de VR à l'époque, c'était bien avant les Oculus et compagnie, et je trouvais ça cool, mais après avoir ça chez toi, tu vois, c'était, enfin là après, tu vois, je me suis acheté hein, des casques de VR histoire de pas mourir idiot, bah, ça fait un peu appareil à raclette, quoi, tu le sors quand t'as tes potes pour faire la démo et après tu le ranges dans un coin parce que c'est pas adapté pour ton usage au quotidien pour le gaming, donc c'est pour ça que j'ai un peu sceptique et là-dessus sur la partie VR, en tout cas en l'état actuel, je vois pas comment ça peut peut décoller plus que ça va, il y a un palier qui va être difficile à franchir pour, je pense, le marché des VR. Après, moi, je suis plus un fervent défenseur de l'AR, mais beaucoup plus, tu vois, l'AR, que ce soit pro ou gaming. Je sais que, voilà, ça va apporter vraiment un gros plus. Je suis beaucoup plus croyant de l'AR, au-delà de ce qu'a pu apporter un Pokémon Go, etc. Il y a tellement d'autres usages à faire et il y a tellement de choses intéressantes à faire avec l'AR que ça t'ouvre vraiment une possibilité incroyable, l'AR, avec les nouveaux devices et tout. Moi, j'attends beaucoup d'Apple, hein, pour ça, j'avoue, qui apporte l'usage plus démocratique et plus facile d'accès, avec une meilleure expérience utilisateur que ce qu'on a actuellement juste avec un téléphone, etc. Donc, bon, il y a sûrement des choses qui vont arriver. Donc, voilà. Mais je reste un peu sceptique sur ça. Et puis, du coup, bon, tu vois, la partie Meta de Facebook, hein, de Meta, d'ailleurs, de la Metaverse VR, la division VR de Meta, qui a perdu des milliards. Bon, ça m'étonne pas. De toute façon, il faut, je pense, est-ce qu'il y a ce marché-là, quoi, en face? Même si tu veux le créer, ça va lui prendre 10 ans, peut-être 20 ans. Je suis sûr que, de son vivant, il va réussir à avoir un marché qui soit viable sur la VR, pour sa vision, quoi. Donc, ouais,
Bah, après, on sait qu'un reptilien, ça vit à peu près 150 ans, donc on est tranquille. Et pour revenir sur la news, donc c'est écrit en plus, hein, il dit, mais le PDG a longtemps insisté sur le fait que l'argent que Reality Labs dépense actuellement finira par porter ses fruits dans une dizaine d'années, alors qu'il affirme que le métaverse pourra rapporter des milliards de dollars. Donc c'est ça en fait, c'est qu'il va dépenser énormément, parce qu'il peut, parce que déjà 40 milliards, faut les sortir quand même. Je pense que c'est un peu le même délire, dans un sens, qu'Elon Musk, qui investit énormément dans le spatial, et qui a ce fameux projet Mars 2030. Je ne sais pas où est-ce que c'en est d'ailleurs ce projet.
Mais
Bon,
limite, j'ai plus
c'est
envie de
qu'à
croire
perte.
à Elon Musk.
Ouais.
Je suis plus tendance à croire qu'un jour on va pouvoir faire le projet d'Elon Musk, tu vois, sur le projet Mars, plutôt que le
Mais
projet vert de Meta, quoi.
j'ai appris un truc pas plus tard que hier ou avant-hier, je sais plus. Il y a la Fashion Week qui se fait aussi en VR avec des designers qui sont, et notamment Adidas, je crois. Adidas ou Nike, je crois que c'est Adidas, qui dépense énormément d'argent pour faire des collections VR, et donc du coup pour que tes avatars sur je ne sais pas quel métaverse soient stylés.
Ouais,
Donc en fait,
ça reste encore
ça
ouais,
commence.
ça reste encore du pro, mais tu sais, ça fait penser à toutes ces boîtes, ces marques qui sont jetées sur les NFT, aussi
Et oui.
pour pouvoir être présent, et ce qui est normal, hein, parce que t'as pas envie de passer à côté, d'être, tu vois, d'attendre le train qui roule et que toi tu attends alors que tes concurrents sont déjà dessus, pour faire un peu comme les autres. Tu te lances aussi, et je pense que ça. Cet effet sera là. Ils ont de toute façon, c'est un budget com marketing pour les entreprises, mais pour l'aspect gaming, pour les développeurs, enfin, moi, je trouve que ça reste quand même un marché de niche qui est intéressant en tant que dev. Même petite équipe de dev indé, faire un projet de VR, ça reste toujours intéressant. C'est galère, mais je trouve que les nouveaux devices sont un peu plus faciles d'accès, comme les Quest et tout, qui donnent un plus grande opportunité de développement pour les devs. Et ça reste quand même un marché de niche. Il n'y a pas grand chose dessus. Il y a encore des choses à faire qui peuvent être intéressantes. Par contre, faire du mass market avec ça, j'ai vraiment du mal à avoir un potentiel de mass market, quoi. Donc, notamment, c'est pour ça que les grosses boîtes, quasiment, il n'y a aucune grosse boîte qui a des projets de VR de ouf, quoi. Personne ne prend le risque d'investir des millions pour un projet, à part Valve, qui avait fait son Alix, la Flash Alix, mais
Ouais.
sinon, il n'y a pas grand-chose avec des budgets de
Non,
dingue.
non, c'est sûr, c'est sûr. On verra comment ça évoluera du coup. Et donc voilà, donc ça c'était la dernière news des cascades de news.
Yes,
J'essaierai
merci.
d'avoir encore ça pour les épisodes d'après.
Ouais, t'as raison, il y a certaines news qui ne méritent pas forcément qu'on s'attarde beaucoup, et puis voilà, on peut toujours commenter un petit peu. Bah, écoute, c'est tout là pour les news, je pense, pour cette semaine.
Ouais,
Je propose qu'on
exactement.
fasse peut-être une petite horoscope vite fait.
Bah,
Euh,
rapidement.
vas-y, ouais, je sais pas si tu veux commencer.
Bah moi, ça sera juste que du coup, je serai à la Game Connection Europe le 2 et 3 novembre pour parler donc de Inula's Fate aux éditeurs, publishers, en espérant pouvoir trouver des contacts intéressants et de voir ce que ça pourra donner par la suite.
Ok.
Donc ça se passe à Paris, au parc de Versailles.
Bah, on croise les doigts, hein. J'espère que ça porte ses
Complètement.
fruits, donc en plein rush pour préparer ça, j'imagine, de son côté.
Exactement, en plein
Ok,
stress.
cool, bah, ouais, je comprends, je comprends. Bah, écoute, de mon côté, moi, j'avais fait quelques formations pour essayer de me remettre un peu à jour sur certaines choses, et puis là, j'en ai profité pour en faire une assez rapidement. En fait, j'adore LinkedIn, enfin, je sais pas si vous connaissez, j'utilise un peu les LinkedIn Learning, la partie premium, ils avaient racheté.
J'ai déjà fait, ouais.
T'as déjà fait, mais je trouve ça dingue. En fait, je trouve juste que les formats sont trop bien adaptés. Ils avaient acheté une boîte, une plateforme de MOOC à l'époque, je crois que c'est Lynda.com qui a été racheté, qui était intégré dans LinkedIn et qui est devenu LinkedIn Learning. Et en fait, à l'époque, déjà, je trouvais que c'était pas mal les formations qu'ils proposaient. Et là, en fait, du coup, je découvre plein de trucs. J'avais essayé de faire des formations sur Figma, etc. Et là je me suis remis un peu. Je l'ai regardé un peu sur les nouveautés, sur l'agilité, Scrum, etc. Et du coup, je suis tombé sur un truc. Donc, j'ai fait ça. Donc, c'est hyper. C'est hyper. Comment dire, c'est hyper bien découpé, bien organisé. C'est des vidéos très courtes de 2-3 minutes, donc c'est pas des trucs de 3 heures à se taper à la suite. Les formats sont, voilà, on peut prendre, arrêter quand on veut, etc. Donc, des petits quiz de temps en temps pour vérifier qu'on a bien compris les cours. Et il y a un petit certificat en plus à la fin qu'on peut partager. Bon, j'avoue, je partage pas, je suis un peu, c'est pas trop pour les certificats que je fais ça, c'est plus pour la connaissance. Donc, non, mais je pense qu'on peut rentrer facilement dans un délire de collectionniste de certificats. Si vous voulez abonner à ça. Mais ouais, c'est assez drôle. Et puis là, il y a un mois gratuit, donc j'avais profité pour regarder un peu ce qu'ils proposent. Peut-être que je vais continuer sur quelques mois, parce que c'est une trentaine d'euros par mois pour apprendre. Enfin, c'est quand même pas grand-chose pour les contenus qu'ils proposent. Donc voilà. Je fais ça. C'est plutôt cool. Bah,
Ok,
écoute, où est-ce
impeccable.
qu'on peut te retrouver du coup,
Eh ben écoute,
Benjamin?
à force de faire ce podcast et d'autres projets qui émergent, je me dis que ça serait peut-être bien que je commence à investir Twitter
Ouais.
pour peut-être parler de ces news aussi, parler un peu des projets que je fais. Je trouve que LinkedIn, c'est pas trop adapté pour ce genre de communication. Peut-être que je me trompe, je sais pas. Donc pour l'instant, on est toujours sur la page Steam de Inouloas
Yes,
Fate
on
et le
sera toujours en note de
Discord
l'émission, hein.
exactement, et peut-être un jour un Twitter. Il existe,
X.
hein, mais inactif. C'est
Un
vrai, pardon.
X.com.
Bientôt un X. Alors, du coup, on appelle
Ouais.
ça les tweetos.
Tweetos, ouais, X.
Comment on appelle les X maintenant?
Je sais pas. Je vais pas regarder la terminologie employée
Ce sera
depuis.
l'objectif d'un nouveau
Okay.
LCDJ.
C'est
Voilà.
ça. Exactement. Bah écoute, de notre côté, de toute façon, sur les coulisses du jeu, vous pouvez toujours le retrouver sur X, sur arrobase coulisses du jeu, coulisses au pluriel, sur YouTube aussi, la chaîne YouTube. Hein, l'épisode est diffusé partout sur toutes les plateformes de podcast, mais aussi sur YouTube. Donc youtube.com/arrobase coulisses du jeu, pareil que sur Twitter, donc avec un S au pluriel. Et on a toujours le Discord du podcast qui est ouvert. Voilà, je vous mettrai tout ça en note de l'émission. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur vos plateformes de podcast préféré. Ben, c'est tout pour nous cette semaine et on se dit à la semaine prochaine. Bye!
Et bien à la semaine prochaine, ciao!